Chapitre 35. Kemlin. Rand se retourna pour s'agenouiller derrière le banc du conducteur. Il ne put s'empêcher d'éclater de rire, l'expression d'un profond soulagement.
On a réussi, Matt. Nous y sommes. Je t'avais dit que...
Les mots s'étranglèrent dans la gorge du jeune homme quand ses yeux se posèrent pour la première fois sur Kemlin. Après Berlon et plus encore les ruines de Shadar-Logoth, il pensait savoir à quoi ressemblait une grande ville. Mais la réalité, Kemlin, dépassait largement son imagination. Ici, des bâtiments se serraient les uns contre les autres, comme si on avait décidé de réunir en un seul endroit toutes les villes et tous les villages que les deux fugitifs avaient traversés. Dotés de plusieurs étages, les auberges dominaient largement les maisons aux toits de tuiles, et de grands entrepôts sans fenêtres semblaient composer un périmètre de sécurité autour des habitations. Briques rouges, pierres grises blanchies ou non à la chaux, tout se mêlait et s'en mêlait dans cette mégalopole qui s'étendait à perte de vue. Berlon aurait pu être caché dans cette cité sans que nul s'en aperçoive. Et 20 ponts blancs auraient pu y disparaître à jamais dans l'indifférence générale. Et le premier mur d'enceinte. En pierre gris pâle veinée d'argent et de blanc, cet ouvrage de 50 pieds de hauteur muni de tours de garde à intervalles réguliers protégeait le cœur de la cité, lui-même entouré d'une haute muraille. Au sommet de ces sentinelles de pierre, l'étendard rouge et blanc d'Andorre claquait au vent. Derrière la seconde muraille, on apercevait d'autres tours, incroyablement hautes, et des dômes que la lumière du soleil irisait de reflets blancs et or. À force d'entendre des récits, Rand avait fini par se faire une image des mégalopoles qui abritaient les rois ou les reines. Siège d'un incroyable pouvoir temporel et inspiratrice de légendes par milliers, Kemlin était à la hauteur de ce qu'il attendait. Grinçant toujours, le chariot descendait en direction de la cité, visant ses énormes portes flanquées de tours de garde. De loin, Rand vit qu'une caravane avait commencé à sortir de la ville en traversant une arche assez large et assez haute pour laisser passer un géant sans qu'il ait besoin de baisser la tête. Comment ça, un géant? Il y avait largement assez de place pour 10. Des boutiques en plein air s'alignaient des deux côtés de l'artère principale, des stalles et des enclos fleurissant un peu partout dès qu'il y avait un peu d'espace libre. Tandis que les veaux gémissaient à fendre l'âme, les vaches mugissaient, les oies cancanaient, les chèvres bêlaient, et l'immense majorité des hommes et des femmes discutaient des prix avec un tel acharnement qu'ils parvenaient parfois à couvrir les criailleries des poulets. Jaillissant de ses portes, ce boucan guidait irrésistiblement les voyageurs vers Kemlin.
Qu'est-ce que je vous avais dit ?
Triompha Bunt, obligé de crier pour se faire entendre.
La plus grandiose ville du monde, et construite par des ogiers en plus de tout. Enfin, au moins le palais et la cité intérieure. Un endroit rudement vieux, non ? Le fief depuis lequel la bonne reine Morgaz édicte les lois et permet au royaume de vivre en paix. Que la lumière éclaire cette grande souveraine et sa capitale, la plus vaste qui existe en ce monde, on ne dira jamais assez.
Rand ne serait pas venu prétendre le contraire. Bouche bée de stupéfaction, il résistait à l'envie de se plaquer les mains sur les oreilles pour ne plus entendre le vacarme. Les gens se pressaient sur la route, le faisant penser à la place verte le jour de Beltine, mais en 100 ou 1000 fois plus grand. À Berlon, se souvint-il, il avait jugé presque impossible que des rues grouillent ainsi de monde. Quel naïf il faisait! Ici, la foule était beaucoup plus dense, même aux premières heures de l'aube. Rand regarda Matt et sourit. Ne reculant devant rien, son ami s'était bel et bien plaqué les mains sur les oreilles. À la façon dont il rentrait la tête dans ses épaules, il aurait sans doute aimé qu'elle y disparaisse.
« Comment nous cacher là-dedans »
cria-t-il lorsqu'il vit que son compagnon le dévisageait.
« À qui se fier parmi une telle multitude? Il y a tant de gens! Et ce bruit insupportable !»
Avant de répondre, Rand jeta un coup d'œil à Bunt. Fasciné par la ville, il ne s'intéressait plus à ses passagers. De toute manière, le boucan l'aurait empêché de les espionner. Rand approcha quand même sa bouche de l'oreille de Matt. Et comment nos ennemis nous trouveront-ils dans cette multitude? Tu n'y as pas pensé, espèce d'abruti? Si tu apprends à tenir ta maudite langue, nous ne risquerons rien ici.
Rand fit un grand geste pour désigner les marchés, le premier mur d'enceinte, la cité intérieure dont on distinguait surtout les tours.
Regarde cette splendeur, Matt! Tout peut arriver en un lieu pareil. Avec un peu de chance, Moiraine nous y attend en compagnie d'Egwen et des autres.
S'ils sont vivants! Moi je pense qu'ils ont quitté ce monde, comme le trouvèrent.
Le sourire de Rand s'effaça, et il se tourna de nouveau vers la cité. Tout pouvait arriver dans un endroit pareil. Il refusait d'en démordre, et voilà tout. Même si Bunt secouait les rênes, le pauvre cheval n'était pas en mesure d'accélérer. Plus on approchait des portes, et plus la foule devenait dense, faisant obstacle à la circulation des chariots et des charrettes. La plupart des voyageurs, nota Rand non sans satisfaction, étaient des jeunes gens couverts de poussière et pratiquement dépourvus de bagages. Quel que soit leur âge d'ailleurs, les visiteurs qui venaient en ville en ce jour avaient l'air fatigué typique des voyageurs qui n'ont pas pu s'offrir le minimum de confort requis. Un véhicule délabré, un cheval fatigué, des vêtements froissés après trop de nuits à la Belle Étoile. Malgré tout, ces pauvres hères rivaient le regard sur Kaemlyn, comme si cette vue pouvait leur faire oublier leur épuisement. 6 gardes de la reine filtraient les nouveaux venus qui s'engageaient sous l'arche. Avec leurs tuniques rouges et blancs impeccablement propres et leurs plastrons brillants, ces soldats faisaient un sacré contraste avec les loqueteux qu'ils avaient mission de surveiller. Droits comme des i, ils regardaient les visiteurs avec un mépris mêlé de suspicion. S'ils s'étaient laissés aller, nul doute qu'ils auraient refoulé les 4/5 de ces miteux. Mais ils se contentaient de garder une partie de la route libre pour les gens qui souhaitaient sortir de Kaemlyn. Et s'ils remettaient vertement à leur place les visiteurs qui poussaient trop fort les autres, ils ne leur compliquaient pas la vie plus que ça.
Restez à votre place et ne poussez pas, au nom de la lumière! La ville est assez grande pour vous tous!
Le chariot de Bunt entra dans Kaemlyn avec la foule, une lente marée montante en quelque sorte. La ville était bâtie en terrasses, chacune évoquant la marche d'un escalier. Au sommet de cette pyramide, un autre mur, blanc et étincelant celui-ci, faisait le tour d'une série de collines. Derrière cette protection, les tours les plus hautes et les dômes regardaient de haut le reste de la ville. La cité intérieure dont avait parlé Bunt, sans doute. Une fois en ville, la route de Kaemlyn devenait un grand boulevard divisé en deux parties par un large terre-plein central arboré qui aurait dû être verdoyant. L'herbe était marron, et les arbres déplumés paraissaient se préparer pour l'hiver. Mais les passants ne s'en souciaient pas, continuant à bavarder, à se presser, à flâner ou à se disputer. Enfin, toutes ces choses étranges que les humains font quotidiennement partout dans le monde. Ces citadins, cependant, semblaient ne s'être même pas avisés que le printemps se faisait attendre et qu'il risquait de ne pas arriver du tout. En fait, comprit Rand, ils ne voyaient pas ce qui les dérangeait. Que ce soit volontaire ou non, il détournait la tête des branches nues et foulait l'herbe agonisante sans daigner baisser les yeux dessus. Comme si ne pas regarder la réalité en face suffisait à la modifier. Parce que le monde, selon eux, existait uniquement quand il consentait à lui donner vie en le contemplant. Soufflé par la cité et sa population, Rand sursauta lorsque le chariot s'engagea dans une rue latérale beaucoup plus étroite que le boulevard, mais encore deux fois plus large que n'importe quelle venelle de champ des mondes. Tirant sur les rênes pour ordonner à son cheval de s'immobiliser, Bunt se tourna vers ses passagers, l'air hésitant. Ici, la circulation était moins dense, et les piétons contournaient machinalement le chariot sans avoir besoin de ralentir.
« Ce que tu caches sous ta cape, fiston ?»
demanda le paysan à Rand.
« C'est vraiment ce que prétend Holdwyn ?»«
Que voulez-vous dire ?»
répliqua Rand sans tressaillir. Imperturbable, il ramassa ses sacoches de sel et les jeta sur son épaule. Son estomac menaçait de se retourner, mais sa voix ne tremblait pas, et cela seul importait. Matt étouffa un bâillement d'une main, mais l'autre fila sous sa cape en quête de la dague au rubis. Sous le foulard noué autour de son front, Le jeune homme avait un regard hanté qui mit Rand mal à l'aise. Sans doute conscient qu'il portait une arme, Bunt évita soigneusement de tourner la tête vers son passager.
« Ce que je veux dire, »
répéta-t-il,
« rien de particulier. Mais si tu m'as entendu annoncer que j'allais partir pour Kemlin l'autre soir, tu as certainement suivi le début de la conversation. Si la prime m'intéressait, j'aurais trouvé un prétexte pour entrer dans l'auberge. Loi et la couronne, si ça vous intéresse. Et m'entretenir avec Holdwyn. Mais je n'aime pas cet aubergiste, et encore moins son fichu ami. On dirait qu'il en a après vous. Une obsession, semble-t-il. »
J'ignore après qui ou quoi il en a, répondit Rand. Ce type en noir, nous ne l'avions jamais vu.
Un demi-mensonge, et peut-être même pas, car Rand était incapable de distinguer un blafard d'un autre.
Vraiment ? Eh bien, je répète, je ne sais pas grand-chose et je refuse qu'on m'en apprenne davantage. Les problèmes viennent tout seuls en ce moment. Inutile de les chercher avec une lanterne.
Matt mettant un temps fou à récupérer ses biens, Rand sauta du chariot avec une solide longueur d'avance. Les yeux cernés de noir, l'ancien farceur numéro 1 de Chandemonde prit son arc, son carquois et sa couverture, les plaqua contre sa poitrine et descendit enfin du véhicule. Rand fit la grimace en entendant grommeler son estomac. La faim, et il n'aurait trop su dire quel saut d'angoisse, lui donnait la nausée, et il n'avait aucune envie de vomir en pleine rue. Se campant devant lui, Matt l'interrogea du regard.
« On fait quoi ? On va où ? »
Se penchant un peu, Bunt fit signe à Rand d'approcher. Le jeune homme obéit, espérant glaner quelques bons conseils au sujet de Kemlin.
« Si j'étais toi, je cacherais... ça. »
Le vieux paysan se tut et regarda autour de lui, méfiant. Des gens dépassaient le chariot sur ses deux flancs, râlant parfois parce qu'ils bloquaient le passage, mais personne ne prêtait attention au conducteur et à son jeune interlocuteur.
« Ne la porte plus. Cache-la ou vends-la, mais ne la garde pas. C'est mon avis en tout cas. » Les objets de ce genre attirent l'attention des curieux. Et j'ai cru comprendre que c'est la dernière chose que tu veux. »
Sans crier gare, Bunt se redressa, secoua les rênes et repartit sans un mot ni un regard en arrière. Obligé de sauter sur le côté pour éviter un chariot chargé de tonneaux, Rand perdit de vue leur bienfaiteur. Quand il sonda de nouveau la rue, il ne vit plus le brave homme ni son véhicule.
« Que faisons-nous ? »
demanda Matt. Très nerveux, il regardait les gens aller et venir au milieu des bâtiments dont certains, incroyablement, avaient quelque chose comme 6 étages.
« Nous sommes à Kemlin, et après ?»
Matt ne s'obstruait plus les oreilles, mais il semblait mourir d'envie de le faire. À Kemlin, on entendait sans cesse le bourdonnement des conversations et les bruits divers montant de milliers d'échoppes. Parfois, Rand avait l'impression d'évoluer à l'intérieur d'une ruche géante.
« Rand, même si nos amis sont ici, comment les trouver dans ce fouillis ?»« C'est moi, Rayne, qui nous trouvera. T'en fais pas. »
La mégalopole lui pesait tout autant qu'à Matt, et il aurait donné cher pour s'abstraire de la foule et du bruit. Malgré les leçons de Tam, la recherche du vide intérieur ne donnait aucun résultat. Dans l'incapacité de s'isoler, il décida de se concentrer sur son environnement immédiat et d'oublier le reste. S'il se limitait à cette rue, par exemple, il pouvait imaginer qu'il était à Berlon. Le dernier endroit où ses amis et lui avaient cru être en sécurité.
Plus personne ne l'est. Et les autres sont peut-être déjà morts. Que feras-tu alors, Rand ?
Non, ils sont vivants. Et Gwen est vivante.
Quelques passants jetèrent un regard interloqué à l'étrange jeune homme qui parlait tout seul.
Peut-être,
marmonna Matt.
Mais si moi, Rayne ne nous trouve pas, si nous restons isolés et que celui qui nous trouve soit...
Il s'interrompit, incapable de prononcer ça à voix haute.
Nous y penserons quand ça arrivera, dit Rand. Si ça se produit.
Au pire, il pouvait tenter de contacter Elaïda, l'Aes Sedai présente au palais de Morgaz. Mais Rand aurait préféré aller directement à Tarvalon. Matt se souvenait-il de ce que Tom avait dit sur l'Aja noire et sur le rouge? Ce n'était pas le genre de choses qu'on oubliait, pas vrai?
Tom nous a dit de trouver une auberge. La bénédiction de la reine. Si nous commencions par là.
Et pourquoi faire? À nous deux, nous n'avons pas de quoi payer un repas.
Il faut tenter le coup. Selon Tom, nous trouverons de l'aide dans cette auberge.
Je ne peux pas. Rand, ils sont partout.
Matt baissa les yeux sur les pavés et sembla se ratatiner pour s'isoler de la foule.
Où que nous allions, ils nous suivent ou nous attendent. Ce sera pareil dans cette auberge. Rien ne peut arrêter un blafard.
Rand prit Matt par le col, en se concentrant pour empêcher sa main de trembler. Il avait besoin de son ami. Si la lumière le voulait bien, les autres étaient encore de ce monde, mais pour l'heure, il n'y avait plus que deux. L'idée de continuer seul... Rand sentit le goût de la bile monter dans sa gorge. Par la force de l'habitude, il regarda autour de lui, mais personne ne semblait avoir entendu la référence au blafard.
Matt, nous avons réussi jusqu'ici, pas vrai? Si nous ne baissons pas les bras, nous gagnerons. Après tout, ils ne nous ont pas encore eus. Je refuse d'attendre comme un agneau à l'abattoir, et je ne le ferai pas. Alors, tu restes ici histoire de mourir de faim? Ou de te laisser capturer comme un idiot?
Rand lâcha son ami, se détourna et s'éloigna. Même s'il s'enfonçait les ongles dans les paumes, ses mains ne cessaient de trembler. Puis il sentit la présence de Matt à côté de lui.
« Désolé, Rand, »
souffla le jeune homme, les yeux toujours baissés.
« Oublie ça, mon vieux. »
Levant la tête juste ce qu'il fallait pour ne pas percuter des passants, Matt se confessa à voix basse.
« Je pense tout le temps que je n'entrerai jamais chez moi. Et je veux y retourner. Moque-toi de moi si ça te chante, mais c'est ainsi. Si tu savais ce que je donnerais pour que ma mère me fasse un de ces fichus sermons. C'est comme un fardeau qui pèse sur mon esprit. Une douleur brûlante, des inconnus partout, et comment savoir auquel se fier? S'il y en a. Rand, deux rivières et si loin que ça pourrait tout aussi bien être à l'autre bout du monde. Nous sommes seuls et nous ne reviendrons jamais au bercail. Parce que nous allons mourir, Rand.
Oui, mais pas tout de suite.
Tout le monde meurt et la roue tourne. Mais je ne me roulerai pas en boule en attendant que ça arrive.
On croirait entendre Maître Alvéré,
marmonna Matt. Mais il semblait un peu moins abattu.
Ce n'est pas si mal.
Non, pas si mal.
Lumière, fais que les autres s'en soient tirés. Nous ne supporterons pas d'être seuls.
Rand commença à demander le chemin de l'auberge. Le succès ne fut pas franc et massif. Le jeune berger fit une jolie collection d'injures, visant ceux qui auraient mieux fait de rester chez eux, assorti de toute une variété de regards méprisants, de haussements d'épaules et de gestes hostiles. Un type presque aussi grand que Perrine inclina sa grosse tête et lança.
« La bénédiction de la reine? Des bouseux comme vous, hommes de la reine ?»
L'homme portait une cocarde blanche sur son chapeau à large bord et un brassard également blanc sur la manche de son long manteau.
« Eh bien »
acheva-t-il.
« Vous arrivez trop tard. »
Il éclata de rire tandis que les deux amis se regardaient, décontenancés. Mais Rand se ressaisit très vite. Les gens bizarres étaient légion à Kaemlyn, et il fallait faire avec. La plupart de ces originaux ne cherchaient pas à se cacher. La peau trop sombre ou trop pâle, des vêtements curieusement taillés ou de couleurs trop vives, des chapeaux pointus ou ornés d'une plume. Il y avait aussi des femmes voilées ou vêtues de robes rigides aussi larges qu'elles étaient grandes.
D'autres déambulaient dans des tenues qui en révélaient davantage sur leur charme que celles des serveuses les plus aguichantes que Rand avait jamais vues. Dans le même ordre d'idées, il arrivait qu'un carrosse outrancièrement paré d'or, et parfois même peint en rose, déboule dans une rue bondée, son attelage de 4 ou 6 chevaux affublé de plumes sur tous les harnais. À Kemlin, les chaises à porteurs étaient au moins aussi courantes que les puces sur un chat. Bien entendu, les porteurs se frayaient un chemin dans la foule sans se soucier des orteils qu'ils écrasaient. Rand vit une rixe commencer à cause d'un accident de chaise. Alors qu'il sortait de son siège mobile renversé, un homme en manteau à rayures rouges, le teint très pâle, avait été pris à partie par un petit groupe de citadins. Deux traits de misère qui passaient par là, sans avoir aucun lien avec l'affaire, lui avaient sauté dessus avant qu'il se soit vraiment dégagé de la chaise. Les premiers imprécateurs avaient été rejoints par une foule de curieux en quête de bagarre. Prudent, Rand avait tiré Matt par la manche. En s'éloignant, les deux jeunes gens avaient entendu les échos d'une petite émeute. Plus d'une fois, des hommes interpellèrent les deux garçons, alors que ça aurait dû être le contraire. Avec leurs vêtements poussiéreux, Rand et Matt proclamaient qu'ils venaient d'arriver en ville, et cette caractéristique semblait agir comme un aimant sur certains individus. Des vendeurs de reliques pour l'essentiel. Furtifs comme des ombres, visiblement prêts à détaler au moindre problème, ils proposaient des « trésors » ayant appartenu à Loghain. Se livrant un rapide calcul mental, Rand estima qu'on avait voulu leur vendre assez de morceaux de la cape du dragon pour vêtir une famille entière. Quant aux fragments de sa lame, ils auraient largement suffi à fabriquer 2 épées, sinon 3. La première fois, une lueur d'intérêt était passée dans le regard de Matt, mais Rand avait poliment refusé toutes les occasions en or qu'on le suppliait de bien vouloir saisir. Soucieux de ne pas se faire mal voir, les vendeurs à la sauvette inclinaient simplement la tête avant de lancer
« Que la lumière éclaire la reine, mon bon maître !»
Puis ils se volatilisaient. Dans 9 boutiques sur 10, on trouvait des assiettes et des chopes ornées de représentations fantaisistes du faux dragon, couverts de chaînes, comparaissant devant Morgaz. Des capes blanches arpentaient les rues. Comme à Berlone, il leur suffisait de paraître quelque part pour que le vide se fasse autour d'eux. Rand consacrait pas mal de temps à un sujet capital. Comment passer inaperçu dans cette fourmilière? Pour l'instant, cacher l'épée avec sa cape suffisait. Ça ne durerait pas éternellement. Tôt ou tard, quelqu'un se demanderait ce qu'il dissimulait. Quant au conseil de Bunt, se débarrasser de l'arme, il refusait d'en tenir compte. Pas question de se séparer de son dernier lien avec Tam. Son père Tam, oui. Dans la foule, pas mal d'hommes portaient une épée, mais aucune n'arborait la marque du héron. Cela dit, tous les citadins et une bonne partie des étrangers avaient enveloppé leurs armes, poignées et fourreaux, dans des bandes de tissu rouge tenues par une cordelette blanche, ou l'inverse dans plusieurs cas. Une bonne centaine de hérons pouvaient se cacher sous cet emballage sans que personne ait l'ombre d'un soupçon. Avantage non négligeable, sacrifié à la mode locale aiderait le jeune berger à se fondre dans l'anonymat de la foule. Pas mal de boutiques proposaient des bandelettes de tissu et des cordelettes colorées. Rand s'arrêta devant un de ces étalages et étudia le problème. Bien qu'on ne vît aucune différence entre les deux, le tissu rouge était moins cher que le blanc. Le jeune berger opta donc pour un emballage rouge et de la cordelette blanche. Il ne prêta pas l'oreille aux objections de Matt, angoissé à l'idée du peu d'argent qu'il leur resterait après cet ultime achat. Le commerçant fit la grimace devant la tenue négligée des deux amis, mais il prit quand même leur argent. En revanche, il se rembrunit quand Rand lui demanda la permission de le laisser emballer son épée dans la boutique.
« Nous ne sommes pas venus voir Loghain, » expliqua Rand patiemment. « C'est Kemlin qui nous intéresse. »
Il se souvint du discours dithyrambique de Bunt et insista.
« La plus glorieuse cité du monde, pas vrai ?»
Le marchand ne se dérida pas.
« Que la lumière éclaire la bonne reine Morgaz !»
ajouta Rand à tout hasard.
« Si tu ne files pas, » dit le type menaçant, « j'appellerai au secours et une bonne centaine d'hommes me répondront.
Même si les gardes ne réagissent pas, ces gaillards-là sauront se charger de votre cas tous les deux. »
Il cracha par terre, ratant de peu la botte de Rand.
« Et maintenant, du balai !»
Rand salua de la tête comme si le commerçant venait de lui dire gentiment adieu. Puis il tira Matt par la manche, l'empêchant à plusieurs reprises de se retourner pour s'en prendre au malotru. Un peu plus tard, les deux amis s'engagèrent dans une impasse. Le dos tourné à la rue, Rand se défit de son ceinturon d'armes et entreprit d'empaqueter le fourreau et la poignée de son épée.
« Je parie que tu as payé deux fois ce que vaut ce fichu chiffon. Trois fois peut-être. »
Une fois qu'on s'y était mis, emballer une épée dans son fourreau était beaucoup moins facile qu'on aurait pu le croire.
« Rand !»
gémit Matt.
« Tous les gens essaient de nous rouler. Ils pensent que nous sommes venus voir le faux dragon, comme tout le monde, et que ça mine notre vigilance. Si ça continue, quelqu'un nous défoncera le crâne dans notre sommeil, histoire de toucher la récompense. » Nous ne devrions pas rester ici. Il y a beaucoup trop de gens. Pourquoi ne pas partir pour Tarvalon ou vers Lilian au sud? Je ne détesterais pas voir de plus près tous les pèlerins qui se réunissent pour la quête du corps. Même si nous ne pouvons pas rentrer chez nous, ne traînons pas à Kemlin.
Moi, je reste, dit Rand. Si nos amis ne sont pas déjà là, ils ne tarderont plus. Parce que je suis certain qu'ils nous cherchent.
Le jeune berger regarda son œuvre, pas vraiment sûr d'avoir emballé l'arme de la bonne façon. Mais les hérons qui ornaient le fourreau et la poignée n'étaient plus visibles, et ça lui suffisait. En revenant dans la rue, il songea qu'il avait une raison de moins de s'inquiéter. Dans son sillage, Matt avançait d'une démarche traînante, comme si son ami l'avait tiré par une longe invisible. Bribe par bribe, Rand obtint tous les renseignements qu'il désirait. Au début, les « par-là » et les « dans ce coin-là sûrement » ne l'aidèrent pas beaucoup. Mais à mesure que les deux amis approchaient du but, les indications se firent de plus en plus précises. Pour finir, ils se trouvèrent devant un grand bâtiment de pierre muni d'une enseigne qui, bien entendu, grinçait au vent. On y voyait un homme agenouillé devant une femme rousse qui portait une couronne. Une main posée sur la tête inclinée de son sujet, elle lui accordait la bénédiction de la reine.
« Tu es sûr de ce que tu fais ?»
demanda Matt.
« Bien entendu, » répondit Rand.
Après avoir pris une grande inspiration, il poussa la porte et entra. Deux cheminées chauffaient la grande salle commune lambrissée de bois sombre. Une serveuse balayait le plancher pourtant immaculé, et une autre, dans un coin, polissait des chandeliers. Toutes deux sourirent aux nouveaux clients avant de continuer leur travail. Très peu de tables étaient occupées, mais à une heure si matinale, une dizaine de clients constituaient une petite foule. S'ils ne parurent pas ravis de voir débouler deux étrangers, ces hommes tout à fait propres sur eux n'étaient pas le moins du monde éméchés. L'odeur de viande en train de rôtir et de pain tout récemment sorti du four mit l'eau à la bouche de Rand. À sa grande satisfaction, l'aubergiste était plus qu'enveloppé. Le cheveu grisonnant, il maquillait sa tonsure naissante en se coiffant en arrière, mais l'effet n'était pas très concluant. Très digne dans son tablier blanc à mi-donné, il évalua ses clients en un clin d'œil, les classa immédiatement dans la catégorie des voyageurs nécessiteux, mais sourit quand même et se présenta poliment.
« Bozelgil, pour vous servir. »
« Eh bien, Maître Gil, un de nos amis nous a recommandé de venir chez vous. » Tom Merrilin, pour tout vous dire.
Le sourire de l'aubergiste s'effaça. Rand consulta Matt du regard, mais son ami était trop occupé à humer les odeurs de cuisine pour s'intéresser à autre chose.
Il y a un problème ?
Enchaîna Rand.
Vous le connaissez, n'est-ce pas ?
Oui,
répondit Maître Gil, distrait. Les yeux rivés sur l'étui de la flûte que Rand portait sur le côté, pas dans le dos, il sembla hésiter, puis lâcha.
« Suivez-moi. »
Rand flanqua une bourrade à Matt pour qu'ils se mettent en chemin, puis il suivit Gil, se demandant ce qui les attendait. Une fois dans la cuisine, Maître Gil dit quelques mots à la maîtresse des fourneaux, une femme affublée d'un gros chignon et qui devait peser à peine une livre ou deux de moins que son patron. En l'écoutant, elle continua à remuer ses casseroles d'où montaient des arômes étourdissants. 2 jours sans manger faisaient une sauce succulente pour n'importe quel plat, mais ça n'était pas la seule explication. Ses préparations sentaient aussi bon que celles de maîtresse Alvéré, et l'estomac de Rand en gargouillait d'avidité. Penché en avant, Matt semblait irrésistiblement attiré par les plats, qu'il humait à la façon d'un cochon en quête de gland. Rand lui flanquant un coup de coude dans les côtes, il se ressaisit et adopta une position un peu plus digne. Maître Gil repartit et sortit par la porte de derrière. Dans la cour, il regarda autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls, puis se tourna vers Rand.
Qu'y a-t-il dans l'étui, mon garçon ?
La flûte de Tom.
Il ouvrit l'étui pour montrer qu'il ne mentait pas. Très nerveux, Matt glissa la main sous sa cape.
Oui, je la reconnais,
dit Gil, sans cesser de surveiller Rand du coin de l'œil.
Je l'ai souvent vu en jouer, et les instruments de cette qualité sont en général réservés aux cours des grands de ce monde.
Il ne souriait plus, et le reflet métallique de son regard évoquait irrésistiblement une lame.
Comment l'as-tu eu ? Plutôt que de s'en séparer, Tom aurait préféré se couper un bras.
Il me l'a donné,
dit Rand. Il enleva le baluchon de son dos et l'ouvrit assez pour dévoiler les carreaux multicolores de la cape et le bout de l'étui de la harpe.
Maître Gil, Tom est mort. Si c'était votre ami, toutes mes condoléances. Je l'aimais beaucoup aussi.
Mort, dis-tu ? Dans quelles circonstances ?
Un homme voulait nous tuer. Tom m'a confié ses affaires et nous a crié de courir.
Voyant que les carreaux multicolores voltaient au courant d'air comme des papillons, Rand replia soigneusement le baluchon.
Sans lui, nous serions morts. Nous étions tous les trois en chemin pour Kemlin et il nous a dit de venir chez vous.
Je croirai qu'il est mort quand je verrai son cadavre,
dit Gil. Il poussa le baluchon du bout du pied, puis se racla la gorge.
Je te crois, mon garçon, ne t'en fais pas. Tu me dis ce que tu penses être la vérité, mais je ne suis pas convaincu que Tom soit mort. Ce trouvère n'est pas facile à tuer, pour sûr que non.
Rand tapota l'épaule de Matt.
Détends-toi, mon vieux, c'est un ami.
Maître Gil eut un regard soupçonneux pour Matt et soupira.
Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça.
Matt se redressa et croisa les bras. Mais il semblait toujours sur ses gardes, et un muscle se contractait bizarrement sur sa joue.
Vous étiez en route pour Kemlin,
répéta l'aubergiste.
C'est le dernier endroit au monde où Tom voudrait aller, je crois. Excepté Tarvalon, sans doute.
Il attendit qu'un garçon d'écurie ait fini de traverser la cour en tenant un cheval par la longe, puis reprit à voix basse.
Vous avez des ennuis avec les Aes Sedai, c'est ça ?
Oui,
répondit Matt.
Qu'est-ce qui vous fait penser ça ?
Demanda Rand dans la même seconde. Maître Gil eut un petit rire nerveux.
Je connais le bonhomme, voilà tout. Pour aider 2 jeunes gars comme vous, c'est exactement le genre d'ennui qu'il est prêt à affronter. Son passé, vous comprenez ? Non, bien sûr, comment pourriez-vous savoir ? Je ne vous accuse de rien, sachez-le, mais je me demandais... Enfin, j'ai le sentiment que... Si je puis me permettre, de quels ennuis s'agit-il ? Avec Tarvalon, je veux dire.
Rand comprit enfin ce que l'aubergiste sous-entendait. Le pouvoir de l'unique.
Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Nous avons même une Aes Sedai parmi nos alliés. Moiraine était...
Rand n'alla pas plus loin, furieux d'avoir lâché ce nom. mais l'aubergiste semblait ne pas le connaître.
Eh bien, c'est une bonne chose. Je n'aime pas trop les Aes Sedai, mais elles sont préférables à... Bon, on parle trop de ces sujets à cause de cette histoire avec Loghain. Je ne voulais pas vous offenser, mais il fallait que je sache, pas vrai?
Aucun problème,
assura Rand. Matt murmura trois mots incompréhensibles, mais l'aubergiste, bon enfant, parut supposer qu'il partageait l'opinion de son ami.
À vous voir tous les deux, exactement le bon profil. Je veux bien croire que Tom vous avait... Non, vous a à la bonne. Mais les temps sont difficiles. Bien entendu, vous ne pouvez pas payer. Ben voyons. En ce moment, nous manquons de tout, et le peu qui reste est hors de prix. Je vais vous offrir le gîte. Pas les meilleurs lits, mais quand même de quoi dormir au chaud. Et le couvert. Même si j'aimerais, je ne peux rien vous promettre de plus.
C'est déjà beaucoup, dit Rand avec un regard appuyé sur Matt. Plus que ce que j'espérais.
Qu'était donc le bon profil, et pourquoi Maître Guil aurait-il dû en faire plus ?
Tom est un très bon ami à moi,
dit l'aubergiste.
Un type au sang chaud qui n'a pas sa langue dans la poche, surtout quand il ferait mieux de se taire devant quelqu'un de haut placé, mais un gars droit et loyal. S'il ne se remontre pas, eh bien, nous improvisons quelque chose, je suppose. En attendant, vous ne devriez plus parler de l'Aes Sedai qui vous aide. Je suis un sujet fidèle de la reine, mais beaucoup de gens, actuellement, prendraient très mal votre histoire. Hélas, je ne parle pas seulement des capes blanches.
Pour ce qui me concerne,
grogna Matt,
les corbeaux peuvent emporter toutes les Aes Sedai au mont Shaiolghul.
Fais attention à ce que tu dis, mon garçon. Je ne les aime pas, c'est vrai, mais je ne fais pas partie des crétins qui les accusent de tous les maux du monde. La reine soutient Elaïda, et les gardes combattent pour la reine. Je prie souvent la lumière pour que ça ne change pas. Mais ces derniers temps, des gardes ont oublié leur devoir de réserve au point de maltraiter des gens qui disaient du mal de l'Aes Sedai. Ils n'étaient pas de service. La lumière en soit remerciée. Mais c'est arrivé, et ça me suffit. Je ne veux pas que des gardes, même en civil, viennent dévaster ma salle commune pour vous donner une leçon. Et je n'ai pas besoin que les capes blanches convainquent un imbécile de venir peindre un croc du dragon sur ma porte. Du coup, si vous voulez que je vous aide, gardez pour vous votre opinion sur les Aes Sedai, qu'elle soit bonne ou mauvaise.
Maître Guil se tut un moment, pensif.
Tant qu'à faire, ne mentionnez pas Tom lorsque nous ne sommes pas seuls. Certains gardes ont une sacrée mémoire. C'est aussi le cas de la reine. Inutile de prendre des risques.
Tom a eu des ennuis avec la reine ?
Demanda Rand incrédule. L'aubergiste éclata de rire.
Donc il ne vous a pas tout dit, le sacripant. Au fond, rien ne l'y obligeait. Mais je ne vois pas pourquoi vous devriez croupir dans l'ignorance. En outre, ce n'est pas vraiment un secret. Vous croyez que tous les trouvères ont une si haute opinion d'eux-mêmes ? En y réfléchissant bien, j'ai peur que oui, mais Tom reste quand même le champion toute catégorie en la matière. Ce qu'il n'a pas toujours été un artiste errant de village en village, et le plus souvent contraint de dormir à la Belle Étoile. À une époque, il était le barde de la cour, ici, à Kemlin. Le Théâtre à Maradon, toutes les têtes couronnées le connaissaient.
Tom ?
S'étonna Matt. Rand ne partageait pas sa surprise. Il voyait très bien Tom, avec sa gestuelle théâtrale, tenir sa place auprès d'une reine.
Eh oui, Tom. Peu après la mort de Taringail d'Amodred, les ennuis ont commencé pour son neveu. Selon certains, Tom était, comment dire exactement, un peu plus proche de la reine que l'exigeaient les convenances. Mais Morgaz était une jeune veuve, et lui avait toute la fougue d'un jeune homme. De toute façon, à mes yeux, la souveraine fait ce qu'elle veut, un point c'est tout. Cela dit, notre bonne Morgaz a toujours eu un fichu caractère. Et quand il a appris que son neveu avait de gros problèmes, Tom est parti sans dire un mot à sa... reine. Inutile de préciser qu'elle a détesté ça. Et elle n'a pas apprécié non plus qu'il fourre son nez dans les affaires des Aes Sedai. Franchement, je pense aussi que c'était une bourde, neveu ou pas neveu. Une fois de retour, Tom a parlé, certes, mais il y a des choses qu'on ne dit pas à une reine, ni à aucune femme de tête comme Morgaz. Et Laïda ne décolérait pas contre lui à cause du fameux neveu. Avec deux dames de cette envergure contre lui, Tom est reparti de Kemlin juste à temps pour ne pas finir en prison, voire sous la hache du bourreau. Et pour ce que je sais, la sentence est toujours exécutoire.
Tout ça remonte à très longtemps,
dit Rand.
Je parie que personne ne s'en souvient.
Oh, détrompe-toi. Gareth Bryne est aujourd'hui général en chef de la garde royale. En ce temps-là, il commandait le détachement chargé de ramener Tom couvert de chaînes. Je doute qu'il ait oublié son retour piteux, tout ça pour découvrir que Tom était revenu de lui-même et déjà reparti. Quant à la reine, elle n'oublie rien. As-tu jamais entendu parler d'une femme qui ne se souvienne pas d'un outrage ? Morgaz était folle de rage. Pendant un mois, la cité entière a filé doux, tu peux me croire. Beaucoup de gardes sont assez vieux pour se le rappeler. Alors, restez muets au sujet de Tom, comme pour votre Aes Sedai. Bon. Suivez-moi. Je vais vous offrir un repas. À vous voir, on dirait que votre estomac est en train de se digérer lui-même.